Très bien. Oui, donc petite révision rapide de ce que nous avons vu la semaine dernière concernant les chiens. Là, je vais m'asseoir parce que ce sera plus simple pour passer les diapos. Voilà, je vous rappelle hein, qu'on a évoqué donc le chien, qu'on avait vu comment, dès l'Antiquité, la figure du chien est présente, évidemment, dans le domaine artistique. On avait montré d'ailleurs comment le chien, c'est visible sur ce vase réalisé par un peintre grec à l'époque archaïque, comme le chien peut être une sorte d'animal, d'être démoniaque, qui vraiment, en l'occurrence, protège les enfers hein, à travers la figure de Cerbère, un chien à trois visages. Pas très étonnant dès lors qu'on retrouve le chien représenté par exemple dans les mosaïques, par exemple de Pompéi, comme étant à l'entrée des maisons. Il protège la maison qu'avait Canem, on avait évoqué cela. Le chien est évidemment aussi de tout temps, si j'ose dire, l'accessoire obligé du chasseur. Hein. Cette œuvre de Tiepolo nous le rappelait, Uccello, nous le rappelait. On a pu également voir comment le chien pouvait être associé à une sorte d'idée de profusion, de générosité dans ces peintures flamandes ou hollandaises du XVIIe siècle, qui nous présentent des espèces d'étals absolument sans fin, d'éléments liés à la nourriture, le chien à sa place, ici d'ailleurs une chienne avec ses chiots, comme pour participer à cette espèce de profusion du monde. Et puis, bien sûr, le chien, c'est la fidélité, et ça, c'est la grande affaire du chien et de sa représentation. On le voit dès cette terre cuite, réalisée par Pistillus à Autun, au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Elle présente un couple dans un lit avec un chien. On le voit, bien sûr, aussi dans le fameux tableau de Van Eyck, Les Époires ne finies, où, comme par hasard, le chien est entre l'homme et la femme, hein, comme liant l'un et l'autre de manière un peu indéfectible. Et c'est visible, mais en creux cette fois, à contrario, dans ce fameux tableau de Boilly, beaucoup plus tard, on est là à la fin du XVIIIe, qui représente les douleurs de l'amour, où le chien en bas à gauche assiste à l'inverse de la fidélité, c'est-à-dire que l'amant infidèle renvoie à son aimé, qu'il n'aime plus, son portrait accompagné d'une lettre de rupture, et on voit l'état, n'est-ce pas, de l'aimé bafoué, qui évidemment est soutenu par sa copine, n'est-ce pas. Évidemment, la fidélité du chien, cette peinture de la Fred de Dole le montrait bien, va au-delà même de la vie. Hein. Même dans la mort, le chien est fidèle à son maître, à sa maîtresse. Ce tableau le montrait de manière très pathétique. Et puis, évidemment, le chien, c'est aussi un élément qui marque les personnages. On voyait comment, dans ce tableau du maître de Nain, Jean Hay, le chien qui accompagne son maître, le cardinal Jean Rollin, est là comme une sorte de double de Jean Rollin. Il y a un mimétisme entre le chien et son maître, mais aussi pour montrer que ce genre de petit chien, aussi cher que petit, et j'allais dire que, entre guillemets, inutile, hein, c'est pas un chien de berger que ce chien-là, bien sûr, est là finalement pour montrer le statut de son maître. Hein. Ces petits chiens chic et cher montrent bien le statut du personnage qui est le maître du chien, c'est-à-dire un statut élevé. Jean Rollin est après tout cardinal d'Autun. Enfin, évêque d'Autun, cardinal et évêque d'Autun. De la même manière, on voit comment, ici dans cette œuvre Van Dyck, le chien est de même un marqueur. Hein, petit chien pour madame, gros chien pour monsieur, la fidélité d'un côté, la force de l'autre. Le chien, décidément, accompagne les humains pour, j'allais dire, mieux les définir. Et c'est une chose un peu équivalente dans la fameuse Vénus d'Urbain de Titien, nous l'avions vu, où le chien est là à la fois pour montrer le statut de cette femme. Hein. Ce petit chien-là est un bibelot, un peu comme on voyait dans le tableau de Jean Hay tout à l'heure. Mais il est aussi doté ici d'une autre dimension liée à une certaine volupté qui apparaît alors de manière beaucoup plus contondante hein, dans le tableau de Fragonard, la fameuse Guimbette, hein, cette jeune fille qui fait danser son chien. Il y a donc une dimension érotique qui peut aussi être celle du chien. Et puis le chien, c'est, on le voit bien dans nombre de peintures hollandaises ou flamandes du XVIIe siècle, également le synonyme de l'éducation. Si les jeunes enfants sont accompagnés d'un chien, ou parfois même les femmes, hein, c'est parce que on fait l'amalgame entre le chien qui doit être élevé et l'enfant qui doit l'être aussi. Hein. Donc chien, enfant, même combat, l'éducation c'est l'objectif, un tableau où cette bergère de pacotille, hein, on avait bien vu qu'il s'agissait d'une jeune fille d'aristocratie déguisée en bergère, avec son chien, montre bien l'éducation qui est celle de cette jeune fille de la haute société. Et puis le chien va devenir, et la Renaissance est là pour précisément l'incarner, va devenir un être en soi. On pourrait dire que jadis, le chien qui était le gardien, l'objet, le bibelot d'art, pourrait-on dire, devient, à partir de la Renaissance, un être qui, j'allais dire, vaut pour lui-même. Ce tableau de Bassano est peut-être le premier portrait de chien à la peinture occidentale, montrant que le chien devient un être en soi. Il n'est plus simplement un équipement qui vient avec l'homme le définir, il est un être en soi qui vaut par lui-même, ce qui sera validé, par exemple, au XVIIIe siècle, par Oudry, lorsqu'il représente les chiens de Louis XV, et bien sûr, et de manière spectaculaire, hein, par François-André Vincent, dans cet extraordinaire portrait de Diane, la levrette de Pierre-Jacques Bergeret de Grandcourt, qui est ici montrée comme une, je dirais, une sorte de princesse, hein, avec de beaux atours, quand, je vous le rappelle, son maître est représenté par le même Vincent en pyjama. D'ailleurs, le chien est à ce point un être aimable qui vaut pour lui-même que Greuze, notre compatriote, hein, représente ici Madame de Porcin avec son chien, mais qu'elle couronne d'une couronne de fleurs. Hein. Le chien est un animal qui est un être à part entière, qui n'est plus une sorte d'ersatz dépendant de l'être humain. D'ailleurs, quelquefois, le chien devient l'être humain. On a vu comment, dans ce tableau de Hogarth, il y avait une sorte de mimétisme entre la gueule du maître et la tête du chien. Hein. On a un peu inversé, n'est-ce pas, les mots. Hein. Et d'ailleurs, Landseer, dont on avait vu plein d'œuvres la fois dernière, nous montre ici un chien, mais il donne à ce tableau un titre explicite, puisqu'il s'agit d'un monde distingué, la société humaine, que ce chien-là, vous le voyez, hein, le chien devient, j'allais dire, l'égal de l'homme. Il n'est plus simplement son compagnon, compagnus, compagnum, mais il est un être bien égal de l'homme. Et puis il y a enfin le chien, j'allais dire, philosophique, hein, de Goya. On a vu comment dans la Quinta de los Sordos, dans la maison que Goya, dont Goya peint les murs à la fin de sa vie en Espagne, avant de venir en France. Hein. Goya, vous savez, peindre les murs de peinture qu'on appelait les pinturas negras, les peintures noires, qui sont toute une série de peintures extrêmement sombres, une sorte de réflexion sur l'être humain, etc. Et on trouve sur une peinture un chien, que vous voyez là, hein, qui fait l'objet d'une peinture seule, et c'est, j'allais dire, le chien face à l'au-delà, face à... Voilà, un chien d'ailleurs énigmatique, hein, ce chien-là, il y a eu des pages écrites dessus, finalement les arnaudes là ne savent pas trop de quoi il s'agit, c'est sûrement pas un petit chien, simplement que là, pour faire joli, hein, c'est un chien face à l'absolu, pourrait-on dire, hein, ce chien des murs, ce chien philosophe finalement, ce chien qui ouvre des pages sans fin de réflexion sur l'être, hein, c'est finalement le chien de Goya. Donc vous voyez que le chien va dans la peinture occidentale, dans l'art occidental, être un animal qui, finalement, va de choses très évidentes, il est là pour garder, pour protéger, jusqu'aux choses les plus profondément philosophiques, Goya nous le montre bien. Voilà, en gros, le parcours, hein, qui est celui du chien que l'on avait retracé la fois dernière. Alors, on n'est pas tout à fait terminé, j'avais préparé un peu trop de diapos. On va donc finir aujourd'hui par quelques œuvres canines, et je voulais commencer par celle-ci. Voilà. Oui. Alors, oui et non, hein, parce que vous voyez qu'il a son Licol là. Mais à votre avis, cette œuvre qui est due à quelqu'un que vous connaissez,
ouais,
Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, hein, c'est signé en bas à droite. Hein, hein. Donc Rosa Bonheur, qui, vous savez, la spécialiste animalière en France au XIXe siècle. Hein. Donc Rosa Bonheur, vous auriez quoi à dire rapidement sur un tableau tel que celui-ci? Alors, il est un petit peu inquiet, mais pas fatigué, tant que ça.
Fatigué.
Plutôt fatigué. C'est un chien fatigué. Pour la bonne raison, voyons tout de suite d'ailleurs le cartel, hein, pour la bonne raison qu'il s'agit de Barbaro, hein, c'est son nom, Barbaro, après la chasse. Un chien après la chasse,
il est un peu fatigué, hein. D'ailleurs son maître l'est tout autant, hein. Vous n'avez pas du tout ici un chien qui est, j'allais dire, mis au rebut, etc. Il est simplement fatigué, parce que la chasse, c'est la chasse, hein. C'est crevant la chasse, et j'adore ça, hein. Enfin moi j'aime pas trop, mais non, je suis pas un chien, les chiens n'aiment pas la chasse non plus,
ils ont bon.
Et donc voilà, Barbaro après la chasse, ça doit être marrant, pour lui, il est fatigué, quoi. Donc voilà, Barbaro est un peu fatigué, il y a une dimension, vous voyez, réaliste dans un tableau de Monsieur. Hein. Rosa Bonheur, vous savez, est la peintresse du réalisme animalier. Mais je voulais aussi vous montrer ce tableau-là.
Ah oui, c'est Diogène, on l'a vu.
Non, on n'a pas vu celui-là.
Mais c'est toujours Diogène.
C'est le même. Hein. Donc, vous vous rappelez, hein, Diogène... dans son dolium, alors là c'est pas un tonneau ici, hein, c'est un gros dolium, un peu cassouillé, vous voyez à gauche là, tout ça est un peu pété, c'est Diogène, de toute façon, pouf, il en est vécu. Hein. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce tableau au niveau de son iconographie par exemple?
Les chiens remplacent les
c'est ça, exactement. Hein. Vous me rappelez pourquoi il tient une lanterne?
Il cherche un chien.
Hein. C'est qu'en pleine journée, Diogène se baladait, on l'a vu se balader comme ça, sur le marché de la ville, et tout le monde disait, je me rappelle, hein, mais enfin pourquoi vous tenez une lanterne en plein jour? Elle lui disait, ben, cherche un homme. Il en était entouré, mais à vrai dire, on ne voyait pas. Parce que c'était pour des humains qu'il voyait. C'était des trucs qui achetaient les machins, qui n'intéressaient pas. Finalement, il est plus proche des chiens. Parce que les chiens valent bien des êtres humains. C'est un peu là. L'idée qu'il y a derrière ça. On continue un petit peu vite, encore une fois. Ça, c'est une peinture de Jean-Léon Gérôme, hein, notre pays de Vesoul, hein, parce qu'il est né là.
Ah,
mais
ça, c'est
Gauguin. Voilà, Paul Gauguin, vous connaissez ce tableau fameux. Enfin, moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce tableau de Gauguin concernant la figure du chien qui est là?
Il est au premier plan.
Oui.
Il fait partie de la nature, il est là parce qu'il est là.
Oui.
C'est pas un chien domestique, c'est pas un chien.
Ben, il est sans doute un peu domestiqué quand même. Hein.
Oui, mais pas dressé comme un chien.
Ah, il est un peu... Il ressemble pas à un
chien.
Alors, l'œuvre de Gauguin, hein, en l'occurrence, s'appelle Aréa. Ce qui doit vouloir dire le chien jaune.
Il avait besoin d'une surface orangée pour équilibrer le rouge du front.
Voilà. C'est-à-dire que, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sent bien là, et c'est intéressant, que le chien, qui est tout ce qu'on a vu, hein. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que je viens de résumer, que vous avez évoqué la semaine dernière, face aux œuvres que j'ai préparées. Là, le chien devient, et on va voir que c'est vraiment la grande tendance de l'époque moderne, pourrait-on dire, devient un support d'art, un support artistique en soi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, le chien, bon, il est là, bien sûr, au premier plan, donc il a conquis sa place, le chien. Il est là évoquant une sorte de sauvagerie un peu domestiquée. Hein, on sent bien qu'on n'est pas là dans le chenil, où Rosa Bonheur nous entraînait tout à l'heure. Hein. Mais évidemment, le grand but de Gauguin là, le Gauguin qui est une sorte de pré-Nabi, hein, c'est Gauguin, après Émile Bernard, on le dit souvent, Gauguin est celui qui, j'allais dire, contribue à mettre au point ce qui va donner le nabisme, c'est-à-dire cette espèce de tache de couleur. Ben là, finalement, le chien qui dit... la fidélité aux hommes, qui dit la première espèce qui est la sienne, qui dit la nature, dit aussi la couleur. Effectivement, il est là parce qu'il vient, amener une touche colorée qui équilibre l'ensemble. Il devient un élément artistique. D'ailleurs, je crois que c'est la même chose là. Hein. Vous avez une idée de qui a fait ce tableau? Je vous en prie. Vous n'avez peut-être pas forcément une idée de l'auteur, mais au moins de l'ambiance artistique, du courant artistique où il a été réalisé. Non ? Je vais un petit peu lire ce que je veux qu'on aborde le singe après, tranquillement. Hein. C'est Franz Marc. Franz Marc, vous savez, fait partie de ce courant de l'expressionnisme allemand. Hein. Et donc c'est intéressant de voir comment, pour Gauguin, pour les expressionnistes, le chien devient un élément artistique en soi. Hein. C'est des éléments, il a conquis déjà plein de choses, on l'a vu, hein, mais il devient aussi un objet, un sujet, comme l'être humain pour l'art. Hein. Il devient sujet. Là, c'est le chien qui est l'objet artistique. Et vous voyez que la façon dont il s'organise sur la toile, le côté couleur, un chien blanc sur fond blanc, c'est pas ce que le carré est blanc sur fond blanc de Malevitch. Hein. Voilà. C'est le sujet du futur. Vraiment, le chien devient un élément artistique. D'ailleurs.
Ah, mais j'ai vu ça. J'ai vu le musée qui porte son nom.
Ouais. Alors, c'est de qui, vous savez ça?
Oui, Bonnard.
C'est bien Bonnard. Hein, c'est signé de toute façon. Et je sais pas, en deux mots, vous auriez à dire quoi sur ce tableau-là?
C'est le repas du chien qui s'adresse et qui participe au repas à la table comme elle.
C'est ça. C'est ça. Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est on a parlé du compagnon, hein, celui qui prend le pain, compagnum, hein, le compagnon. Hein, là, en l'occurrence, c'est très clair. Hein, voilà, le chien noir est le compagnon de sa maîtresse qui est à droite. Hein, tous les deux partagent le même pain. C'est des compagnons. Mais vous voyez aussi, et je trouve que c'est d'une grande force, c'est très très réussi dans ce tableau de Bonnard, comment le chien avec sa masse noire répond à la masse claire de sa maîtresse de l'autre côté. Quoi. Une sorte d'équilibre comme ça de chaque côté de la table. Hein, vraiment une mise à niveau des deux êtres. Un être animal, un être humain, et alors le problème est où? Bonnard semble comme ça, mettre dans le déjeuner au chien les deux éléments face à face. Alors il y a plusieurs versions hein, de ce déjeuner au chien, mais celle-là est étonnante. Ça vous dit quoi, ça?
C'est le mouvement.
Le mouvement. Alors ça vous rappelle des choses?
C'est un italien.
Pardon, oui, un italien. Absolument.
C'est le nom de ça.
Oui. Un futuriste italien. Un futuriste. Vous savez, les futuristes italiens s'intéressent beaucoup à quoi?
À la vitesse.
À la vitesse, à la modernité en général. Hein. Les futuristes italiens, vous connaissez quelques noms peut-être?
Oui, ça ne revient pas comme ça.
Les futuristes s'intéressent beaucoup à la machine, à la locomotive, la bagnole, tout ça, c'est le truc des futuristes. Hein. Donc, ils ne sont pas du tout dans une sorte de célébration du passé, des vieilles techniques. Non, ce qui les intéresse, c'est justement ce qui, l'essence, voilà, toutes ces choses. Et là, l'œuvre que vous voyez là, qu'est-ce qui peut-être peut vous frapper par rapport justement à cette idée de la modernité?
Voilà, il y a une décomposition du mouvement, oui. qui donne l'illusion de courir. Quoi.
Et qui rappelle quel autre domaine, quel autre médium artistique?
La photo.
Le cinéma, la photo. Mais la photo quand même, parce que est-ce que vous connaissez un personnage, un primitif de la photo? Bourguignon.
Marais.
Né à Beaune, à côté d'ici. Vous connaissez le musée Marais à Beaune, un truc très très important. Hein. Et Marais s'intéresse comme ça à la décomposition du geste. Hein. Là, vous avez ça. Chez ce futuriste italien,
Bella,
pardon,
Bella.
Bella. Giacomo Balla, hein, qui voilà. Et alors il y a Severini aussi, enfin bref, il y a une série. Donc un tableau formidable, d'énisme d'un chien en S, qui, je crois, on dit. Alors il y a un autre chien formidable. Décidément, vous voyez, le chien devient un être comme l'homme, qui est décidément le centre du projet artistique, quoi. C'est pas un élément un peu secondaire, un attribut, un truc qui sert à l'homme. Il est en soi un élément.
Giacometti,
hein, le fameux chien efflanqué de Giacometti, hein, mais qui montre mieux un chien que n'importe quel autre œuvre. C'est tout à fait extraordinaire. Très très belle sculpture en bronze. Et puis bien sûr, vous connaissez. Alors, c'est le monument canin contemporain.
Jeff
Koons, hein, qui est le grand chien de Jeff Koons, qui est à l'entrée du Bilbao, hein, du musée Guggenheim, hein, le chien fleur, ou Poppy, exactement. Voilà, hein, une œuvre célèbre de lui. Ah non, c'est bien Poppy. Et puis, je crois que c'est la dernière. Encore une fois, l'idée était plus de terminer. Ça, Ça, ça vous dit quelque chose? L'artiste contemporain.
Français?
Non.
Okay.
Bravo. Je trouve que c'est, enfin, je pense que, encore une fois, je prends beaucoup la parole parce que l'idée est plus de finir pour arriver au singe après. Mais ce que je trouve formidable, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est le fait que chez ces peintres contemporains, Hockney a fait, je ne sais pas, des dizaines de portraits de ses chiens. Il a des petits chiens comme ça, il adore ça. Et là, ce que je trouve formidable, c'est que vraiment, on voit comment le chien de enfin, c'est pas nouveau, on l'a vu depuis Gauguin, finalement, et d'autres, mais devient décemment. L'élément de là, c'est plus un portrait de personnage, c'est le chien lui-même, qui est une tache brune sur un fond jaune avec du vert et du bleu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment Hockney, là, il va au très fond de ce que c'est que la peinture. Et on pourrait reciter la phrase de Maurice Denis pour une amie, hein, avant d'être un sujet, là, un chien poussé sur un coussin, hein, c'est avant tout des taches de couleur assemblées, dans un certain ordre assemblé. C'est ça l'idée des nabis qu'on pourrait retrouver ici. On est vraiment dans le béaba de la peinture. Et qu'est-ce qui sert de base à ça? C'est un chien. C'est pas un être. On termine ce regard sur le chien par ça.
C'est une photo.
C'est une photo. C'est une photo.
Le chien est humanisé complètement.
Voilà, le chien est complètement humanisé. Vous connaissez, alors il y a un photographe, hein, un artiste qui travaille avec la photo, qui s'est spécialisé là-dedans avec ses chiens, qui s'appelle William Wegman, qui fait poser son ou ses chiens d'une manière complètement humaine. Donc là, c'est ses chiens qu'il a habillés. Enfin voilà, et évidemment c'est très étrange parce que. On sait du très très bien ce qu'on est nous-mêmes.
Il les habille pas vraiment.
Ah si, si, si. Après, il se débrouille. C'est-à-dire que il a sans doute fait asseoir sur un tabouret. Il a certainement mis du papier dans les mains. Enfin, oui, quoi. Il se débrouille, mais c'est vraiment ces chiens qui sont là. Alors là, il regarde en bas. C'est en l'occurrence des chiens qui sont très proche de lui, très, très bien élevé. Il en fait un peu ce qu'il veut. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Voilà, oui. Mais vous savez, il y a des chiens qui acceptent plein de choses. Hein. Surtout si on est gentil avec eux. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment une manière de d'humaniser à ce point le chien, et ça nous interroge nous-mêmes dans notre caninitude, vous voyez. C'est vraiment poussé au fond de parcours qu'on a vu. Le chien n'est pas simplement un joli support plastique qui est en soi une sorte d'œuvre d'art qu'on peut transcender. Il nous interroge, nous, sur notre statut. Et ça, c'est plus que... Enfin, en plus d'une sorte de gag, parce que c'est gaguesque. Hein. Ça vaut Jérôme Bosch qui présente des nonnes avec un corps de grenouille. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de philosophiquement assez, assez rude, finalement. Hein. Bien. Voilà ce qu'on allait avoir sur le chien. Maintenant, je vous propose qu'on aborde un autre animal. Alors là, c'est pas moi qui vais parler, c'est vous. Et cet autre animal, c'est donc le singe, et je vous propose une première image. Ah bah, vous voir, hein.
Là-haut, ils sont au-dessus, à côté d'un cheval. Ils sont sur le cheval, il y en a deux. Ils sont sur le cheval, ils sont sur le cheval.
Voilà.
Il y a un bestiaire.
Donc, donc, d'abord, qu'est-ce que vous avez là comme scène? C'est une nativité, effectivement, mais c'est le moment de l'adhération des mages. On est bien d'accord. Alors, ce que vous disiez, c'est effectivement que les mages viennent d'Orient. Et donc, là, c'est quoi l'idée? Voilà, c'est en montrant les singes. Ils ne sont pas topiquement originaires d'Occident. Hein. Enfin, peut-être il y a des millions d'années, mais enfin, à l'époque de création de cette peinture, car on On n'a pas dit son étude, enfin c'est assez évident. Voilà, les singes viennent d'un ailleurs qui peut-être correspond à une sorte d'Orient au sens large du terme. Est-ce qu'il n'y a que ça d'ailleurs ? Oui, voilà, il y a effectivement un jameau ou un dromadaire. On a même sans doute plusieurs. Voilà, oui. Alors, on voit, ils sont sur le dos d'un dromadaire, mais il semble qu'il y en ait sans doute plusieurs, puis il y en a au fond, sans doute aussi. Et alors, au-delà de cette idée de l'évocation de l'Orient, le singe, là, il peut évoquer quoi ?
L'exotisme.
Pardon ?
L'exotisme.
Alors, l'exotisme en général, oui.
Il y a du
monde.
Il y a un chameau. Je vois pas de chameau.
C'est un dromadaire. Hein.
Ouais, c'est les singes qui sont dessus.
Ah, les singes sont dessus, effectivement. Ah non, non, c'est vraiment. Il a vraiment une tête de dromadaire. Ah, on voit quand même la bosse sur laquelle est l'un des singes. Oui, et alors donc, les singes, là, évoquent quoi aussi ? L'Orient, l'exotisme, ok.
Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, parce qu'ils discutent entre eux, ils ne se regardent pas, on a l'impression qu'ils s'en fichent de la scène.
Alors, il y a peut-être effectivement cette dimension-là, c'est-à-dire le singe, il est quelque part, effectivement, un peu sauvage, et pas, effectivement, il n'appartient pas au monde chrétien. Et le fait de l'intégrer là, ce serait une manière de dire quoi aussi ? Sur ce plan ?
Il faut faire passer la foi partout.
Voilà, il y a un peu de ça. L'idée, effectivement, de l'universalisme de la religion. Après tout, on convertit les singes, quelque part. Hein. Et puis, il y a peut-être encore une autre notion avec la présentation de ces singes. Les singes sont là pour évoquer l'exotisme, l'Orient. Les images viennent d'Orient. Ils sont là pour montrer une sorte d'universalisme de la religion. La religion doit régner sur l'univers, jusque-là où sont les singes. Et puis, il y a peut-être autre chose aussi.
Un compagnon de l'homme.
Oui. Et, mais encore.
Un homme.
Un humain.
Un humain sauvage.
Un humanoïde.
Un humanoïde qui se tient comme un être humain sur son chromadaire.
Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de parallèle, hein. Tout le monde a un singe.
Ah ben les riches, les gens
non.
riches.
C'est un peu comme le chien, c'est un marqueur social. Hein. Mais c'est encore décuplé, parce que avoir un petit chien comme le cardinal Rollin, déjà, ça montre un statut social. Avoir un singe, voilà, ça ne vient pas comme ça. Hein. Le singe, faut le payer. Hein. Donc, voilà, il y a aussi là le fait que le singe, c'est l'attribut de l'oriental, mais l'oriental riche. Il y a donc les rois mages, c'est vraiment pas des gens et bien des chefs. Hein, c'est vraiment des grands princes. Hein, tellement grands, tellement qu'ils ont non seulement de beaux atours, ils amènent, vous savez, l'or, l'encens et la myrrhe, mais en plus, ils ont ce qui fait que les princes sont riches, ils ont des singes, notamment. Cette œuvre, vous la voyez datant de quand ? Vous la voyez faite par un artiste originaire d'où ? Vous savez
l'artiste ?
Italie.
Renaissance.
C'est-à-dire, si on avait à dire un siècle,
15e.
Allez, Italie 15e, on verra tout à l'heure. Hein, on ne voit pas tout de suite. Ah, ça change. Hein.
Oh, mais il est trop mignon. Ah oui, c'est Titi.
Un portrait, oui. Donc évidemment, là, on a un singe qui est individualisé. Donc il y a une dimension, comme vous disiez, de portrait. Hein. Il y a peut-être une dimension connexe de cette portrait, mais autre aussi. Peut-être pour nous y aider, vous mettriez cette œuvre-là, où, là aussi, peut-être vous avez l'idée d'un nom, je ne sais pas, hein, mais ça a été fait quand ? Ça a été fait dans quel pays ? Vous avez une idée de ça ?
En France.
France ?
France, 18e.
France 18e
17,
18, 17, 18, 17, 18,
17, 18.
Ok. Et justement, est-ce que cette idée-là peut vous donner, mettre sur la voie d'une autre dimension?
À moins que ce soit l'Espagne pour montrer la dimension du Grand Empire.
Donc on va vers l'Espagne?
Oui. Avec des pêches, des pêches. C'est le sud. Hein. C'est plus au sud. C'est vrai que c'est plutôt au sud. Et montrer qu'ils sont partout.
Pour montrer la dimension universelle, là aussi, de l'Empire d'Espagne, c'est ça que vous pensez?
Une idée.
Et cette façon de montrer ce singe avec, vous voyez, des fruits, etc.
Il nous observe. Hein.
Oui. Oui, il nous prend des
droits. Il est en train de dérober
hein, et, voilà.
Et il nous regarde. Il est un peu malin.
Oui, en même temps, c'est des fruits qui sont... Allez, vous voyez, il est, on est dans la nature, quoi. Hein. Il est en train de cueillir, en fait. Hein, à sa manière, mais il est en train de cueillir. Donc, il est finalement, entre guillemets, surpris dans sa... C'est quoi,
hein.
Oui, mais est-ce qu'il ne s'apparde pas plus que, pas plus que quelqu'un qui prend... Alors, bien sûr, si on va dans un verger... Et qu'on enlève une pomme, c'est pas bien, mais enfin, si on est dans son propre verger, on a le droit d'en jouer une pomme, quoi, ou n'importe quel autre fruit. Donc, bien sûr, le singe, il est malin, ça. Mais là, il est peut-être tout simplement présenté dans une activité qui est là, s'il y a Nicolas. Les hommes cueillent des fruits aussi.
Il imite l'homme, oui.
Oui, ouais, il imite, ou il dans la nature, il le fait. Hein. Et justement, qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Bah justement, ça nous met un peu mal à l'aise.
Pardon?
Ça nous met un peu mal à l'aise.
Qu'est-ce que ça inspire, ce côté, une espèce de manière de montrer...
C'est à moi, pas à moi.
Oui.
C'est la liberté, le paradis. Il est libre, il mange, il n'a pas de contraintes.
Oui, alors c'est vrai qu'on nous montre... Ce singe comme étant sans doute effectivement un exemple d'une espèce de liberté, on le montre dans son milieu. Alors, je ne suis pas sûr que la végétation en retour soit la végétation qui soit celle de ce singe. Je ne suis pas assez spécialiste de ces singes-là pour le dire. Hein. La végétation derrière est peut-être difficilement mesurée, difficile de voir. Mais quand même, il y a une chose qui me frappe au-delà de tout ça, là, sachant en plus l'époque où cette œuvre a été faite.
Et c'est pas le paradis avec le péché originel, non?
Ah, alors, ce serait un serpent, oui, ce serait ça. Hein. Je suis pas sûr que ce soit des pommes non plus. Hein.
Non,
ça pourrait faire penser à ça, vous avez raison. Hein. Mais là, je suis pas sûr qu'il y ait de ça. Alors, peut-être qu'il y a quand même cette idée de paradis, de nature parfaite, inviolée, dans lequel ce singe est libre, comme ses congénères. Et justement, le fait de montrer ce singe-là dans son milieu, qu'est-ce que ça...
C'est la découverte.
La
découverte des nouveaux pays.
Alors, c'est la découverte des nouveaux pays, et puis quoi d'autre? Encore une fois, si on est au 17, 18e...
Un certain naturalisme,
mais encore plus
sévice.
Pardon?
L'exotisme.
L'exotisme, oui, mais l'exotisme, ça peut être un exotisme un peu de presque dire de pacotille, hein, un peu comme on a vu dans le tableau avant, où les singes tout de suite faisaient Orient. Hein. Là, je crois qu'on va un peu plus loin.
Retour à la nature.
Ouais.
Observation, tout.
Alors voilà, c'est l'observation de la nature.
Alors au 18e, on a beaucoup observé les végétaux de tout.
Vous pouvez citer un nom
oui,
Bourguignon en plus.
Bougainville, je trouve le
son nom. Alors,
il y a
Buffon.
Buffon.
Bien sûr. Mais Buffon est vraiment l'archétype total de celui qui vraiment s'intéresse aux animaux, les dessine, les élève dans son parc de Montbard. Il a même fait raser le château de Lugobron pour mettre son parc. Hein. Bon. Il a des animaux, il les regarde, il essaie de les voir au plus près, il les fait graver. Il essaie de voir de manière de décrire les espèces, etc. Donc il y a dans cette œuvre-là, qui date du 18e, hein, vraiment cette idée naturaliste, quoi. On étiquette, c'est l'idée où on commence à faire des musées d'histoire naturelle. Ça, c'est vraiment un tableau qui montre évidemment un singe portraituré dans son milieu. C'est-à-dire on s'intéresse, comme un entomologiste s'intéresserait aux insectes, au singe dans sa vérité, si vous voulez, scientifique. C'est presque une planche, vous avez déjà eu sûrement des planches du fond, où on voit l'animal comme ça, hein. On a un peu une sorte d'équivalent à la même époque, sauf que ça n'a pas été fait pour du fond. Donc on est dans une espèce d'intérêt zoologique, hein, pour l'animal. Bon, vous avez localisé le singe ?
Non, c'est entre les deux personnages.
Au milieu où ?
En bas.
En bas, non, vous avez raison, il est là. Hein ? Le singe, il est là. C'est un singe. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il est mélangé à quoi, vous disiez?
Il y a un centaure. Déjà.
Il y a une espèce de roi, oui, qu'on est en train de le baigner dans l'eau. Oui, un drôle de roi.
L'arbre, il est personnifié.
Alors il y a un arbre personnifié ici. Il y a une espèce d'Athéna. C'est vraiment une espèce d'Athéna. C'est peut-être Athéna. Et Athéna Minerve. Hein, que vous reconnaissez, c'est une femme en tenue guerrière avec son casque, etc. Donc Minerve, Athéna. Mais
devant, dans l'eau, il y a une dame qui tient une personne qui n'a pas de capuche de bras.
Oui. Donc, il n'en a peut-être jamais eu d'ailleurs.
Il a où ça vole. Trois personnages.
Les vents qui soufflent dans les nuages.
Oui, on voit les nuages, hein, avec des sortes de têtes, hein, qui évoquent quoi d'ailleurs? Voilà, le zéphyr, enfin le vent. Quoi, hein. Alors, cette scène, d'abord, on pourrait la qualifier de scène comment? Enfin, c'est quoi comme type?
Hétéroclite.
Oui. Oui, c'est ça, mais il y a un peu beaucoup de choses, mais c'est une scène qui appartient à quel genre? Est-ce que c'est un portrait, un paysage?
C'est une scène
mythologique, mais on peut peut-être même aller caractériser encore mieux.
C'est une scène allégorique.
C'est vraiment une scène allégorique. C'est quelque chose qui n'a pas pour vous de représenter une réalité historique, la bataille de je ne sais quoi, ou la vie de je ne sais qui. C'est une scène allégorique plus que mythologique. Mythologique, oui, parce qu'il y a Minerve et qu'il y a évidemment des divinités de l'Antiquité. Hein. Mais c'est plus une scène allégorique où on sent que les différents éléments disent quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qui est dit dans cette scène?
Beaucoup de mouvement à gauche.
Il y a du mouvement.
Et peu à droite.
C'est bien qu'à droite, vu l'état de cette espèce de roi, ça ne bouge pas beaucoup. Oui. Enfin, ça bouge quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire?
Elle les pousse.
Elle les chasse hors d'un temple.
Donc on a l'impression que Minerve est en train de chasser tout ce petit monde de cet espace. Et pourquoi est-ce qu'elle chasse tout ce petit monde?
Ils ne sont pas chez eux.
Pas chez eux. Oui, ah ben les trois là-haut, ils observent, manifestement.
Ils sont impurs.
Ils regardent, ils sont. Pourquoi est-ce qu'elles chassent tout ce petit monde?
Ils ont fait des bêtises.
Ils ont fait des bêtises?
Non, mais est-ce qu'ils sont pas, ils sont pas normaux.
Oui, ils sont pas normaux.
Ils sont pas normaux.
Ah oui,
normaux.
Bah oui, parce qu'il manque un bras, l'autre c'est un centaure, l'autre ça a l'air d'être un.
Oui, il y a plein de gens normaux.
Oui, il y a aussi des gens.
Ça n'est pas.
Non, c'est des gens normaux. Hein.
C'est marrant. Bon, non, il y a des gens normaux, ben oui,
il y a des gens normaux. Non, il y a le singe au milieu. Oui, il n'y a que des. Ils sont normaux.
Alors, c'est vrai que quand on regarde, vous avez là un singe. Là, vous avez remarqué un centaure, hein, avec une personne sur sa croupe. Bon. Là, vous avez un espèce de gros roi bedonnant, tout nu. Je sais même que tous les rois sont toujours tout nus en permanence, c'est bedonnant. Hein. Enfin, on peut quand même s'étonner, d'autant qu'il n'a pas l'air en pleine forme. Il est tenu au-dessus de cette sorte de nappe d'eau par deux bonhommes avec une sorte de lin sur la tête. C'est un peu bizarre. Là, vous avez un personnage qui a une tête, plus ou moins une sorte de tête d'animal. D'ailleurs, ici, vous avez un personnage qui a des pattes de chèvre, comme celui qui est là. Hein.
C'est
un
enfant, oui.
Voilà.
Une
allégorie
de la civilisation.
Une allégorie de...
Il chasse les choses anormales.
C'est ça. En fait, ce que vous avez là, c'est bel et bien Minerve qui chasse les choses, entre guillemets, anormales. Mais ces choses anormales, elles représentent peut-être spécialement quelque chose.
La sauvagerie.
Oui, la sauvagerie, ou le vice. Ou... Et en Minerve, là, elle fait le ménage. Quoi, hein. Elle est en train de balayer de cet espace qui se veut paradisiaque tous les vices. Quoi, hein. Elle est en train de chasser tout ce qui ne doit pas être là. Hein. Donc c'est cette idée-là, effectivement.
Hein. Pourtant, les deux personnages au milieu sont de la
forme. Oui, mais ils sont peut-être avec Minerve, après tout. On n'en a pas parlé pour l'instant. Hein. Voilà. Donc Minerve est en train de chasser. Voilà, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on a ici, là, au moins là, hein, des personnages. C'est une œuvre qui prête beaucoup à discussion. Hein. Pourquoi d'ailleurs? C'est une œuvre que vous datez de quand? Vous lisez fait tout.
De quand?
De quand et où?
16-17,
comme ça. Bon, on essaie peut-être de réduire la focale un peu. Parce qu'on peut dire, oui, 15-20e. On a le chance d'être un peu très grand.
Elle est 17, début 17.
17. Tout le monde est OK, il n'y a pas de voix dissidente.
Non, j'ai
pas d'idée.
Et quel pays?
Et dans quel pays? Donc vous dites 17e et cette peinture a été faite où? Donc
j'aurais bien Italie.
Peut-être Italie. Peut-être Italie et 17e, ouais. Elle est jugée. Italie 17e.
Bien.
Ah oui, mais dès que je dis quelque chose, vous dites non.
Il faudrait savoir tout de suite.
Ah non. Tout à l'heure, quand on ramassera les copies. Bien. Donc voilà une œuvre italienne du 17e, représentant Minerve chassant les vices.
Les vices.
On va ça?
Oui.
On regarde l'œuvre suivante.
Le singe est assimilé à un vice.
Oui, alors le singe, qu'est-ce qu'il fait là?
Mais oui, le singe.
Ben, le singe est manifestement assimilé à un vice.
Oui.
Il fait partie des vices.
Il fait partie des vices.
Et pourquoi d'ailleurs, peut-être?
Parce que Chapard est un voleur.
Oui, voilà, Chapard, il est malin. Il est malin comme le diable, qu'on appelle le malin d'ailleurs. Donc voilà. Ok. Oh, sûrement pas. En tout cas, pas complètement.
Un singe
savant.
Un singe savant.
il a des livres, une loupe,
C'est un numismate, il n'a pas une médaille dans la main. Oui, on a l'impression, parce que là, il a une sorte de médaillé. Visiblement, il a sorti une médaille du médaillé et regarde. Donc, l'idée, c'est quoi?
C'est la personnification. Humanisation d'un singe.
Voilà, il y a effectivement peut-être une double chose. Hein. C'est, vous l'avez senti, vous l'avez dit, l'humanisation du singe ou la signification de l'homme. La sinophilie de l'homme. Hein. Bref, l'homme devient singe autant que le singe devient homme. Hein. Et puis il y a peut-être effectivement une dimension de caricature. Peut-être un peu les deux. Hein. On essaie de rapprocher l'homme du singe et vice-versa, mais peut-être une dimension de caricature qui voudrait dire quoi?
Que les savants sont...
Pardon?
C'est se moquer des savants aussi.
Voilà, c'est peut-être une manière de se moquer des savants. On a là un personnage, hein, un singe, qui a l'air très savant. Peut-être une manière effectivement de tenser, de caricaturer les savants qui peut-être ne sont que des singes. On est où? On est quand?
Au 18e.
18e, oui.
Peut-être en France.
Peut-être en France? Peut-être à Nantes.
C'est Jardin, oui, mais ils étaient plus.
Vous avez une idée d'un nom? Non. Donc peut-être France, mais 18e, vous étiez assez chaud, hein.
C'est des singes qui ont été rapportés des colonies, oui, et qui sont présentés.
C'est un parallélisme avec l'esclavage.
Il y a effectivement pas mal de choses là. Hein. Il y a la dimension, comme vous dites, de parallélisme avec l'esclavage. Hein. On a des singes qui sont entravés. La dimension exotique, c'est ramener d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous le suggère encore mieux d'ailleurs?
Les bateaux.
Donc il y a un port à l'arrière.
On croirait Venise derrière.
Venise.
Ou dans le pays nordique.
Mais c'est Bruxelles.
Oui, mais après tout, on voyage pas mal, et puis même si on ne voyage pas, on a connaissance de lieux autres que celui où on habite.
1562
ou 3, parce que... Qu'est-ce que vous voyez aussi dans un... Donc on est au milieu du 16e siècle. C'est un des plus anciens tableaux qu'on ait vu. Avec peut-être celui du départ. Et donc, qu'est-ce qui peut vous frapper aussi là?
Découverte des voyages.
Le singe du canadien.
Pardon?
La découverte, elle a été faite un siècle, plus d'un siècle avant. Là, c'est l'exploitation.
Oui. Puis ce qui me frappe sur le plan pictural, c'est penser à l'adoration des mages que vous avez vu au départ, que vous situiez au 15-16e, je crois. Hein.
Hein? Non, 16e, c'est trop tôt.
Ah, trop tard. Au 15e, alors. 16e. Et ça, alors qu'il date d'un petit siècle après, dans ces cas-là. Hein. Vous voyez quelque chose qui me frappe comme différence entre l'un et l'autre?
Là, les chemins sont enchaînés et l'autre.
Oui, alors ils étaient enchaînés sur le dos de l'entendre d'air.
Il y a plus de réalisme.
Alors là, il y a effectivement une sorte de réalisme. Les singes de l'adoration des mages étaient plus sans doute moins observé que là, effectivement.
C'est un morceau
de
tableau ou c'est...
Non, c'est le tableau lui-même. D'ailleurs, vous voyez la signature, la date. Ça, c'est le tableau lui-même.
Il n'y a plus de nature.
Pardon ?
Il n'y a plus de nature.
Ah non, bah non, ils ont été enchaînés, enlevés de leur territoire, absolument.
Qu'est-ce qu'il est là ?
Donc, il y a une différence quand même fondamentale entre l'adoration des mages et ça. Pardon ? Alors voilà, on revient au fait que c'est un portrait, c'est-à-dire qu'effectivement là, le tableau montre les singes. Le sujet, c'est les singes. Enfin, son image, c'était pas les singes. Hein. Les singes étaient des attributs qui étaient là pour nous dire l'exotisme, la présence de la religion sur le monde entier, la richesse. Là, le sujet, c'est des singes. C'est pas une adoration d'image dans laquelle il y a mille choses, dont des singes, et on a vu du mal à les trouver. Hein. Là, le sujet, c'est des singes. En fait, c'est un petit peu comme les chiens. Les chiens de Passadon que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. On commence, on est ici au XVIe siècle aussi, on commence à montrer les animaux pour eux-mêmes. Hein. Singe et chien, même combat. Hein. On montre l'animal pour lui. Le singe devient capable d'être le sujet d'un tableau.
Il y a le cadrage aussi qui est particulier quand même. Là.
C'est-à-dire
on a l'impression qu'il y a une mise en scène des animaux. L'impression de zoomer sur ces deux animaux et puis d'être un peu dans leur intimité.
Oui, il y a, c'est effectivement le cadrage est intéressant, c'est-à-dire qu'on les a fait poser dans cette sorte de niche-fenêtre, si j'ose dire, hein, qui crée un deuxième cadre. Hein. Alors ça, c'est un procédé artistique que les peintres aiment bien parfois utiliser. Hein. La Broguel en joue complètement, c'est-à-dire qu'il crée un deuxième cadre à sa peinture. Il doit y avoir le cadre lui-même, il y a le cadre dans la peinture qui est celui de cette fenêtre. Hein. Double cadre, en quelque sorte. Effectivement, c'est comme une petite maison dans laquelle ils déjeunent, d'ailleurs, puisqu'ils ont croqué quelques noix, semble-t-il.
Ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont attachés.
Eh bien, oui.
Et puis, le fond, il y a des navires qui peuvent partir et eux, ils sont prisonniers.
Voilà.
Il y a l'opposition, la liberté et la...
Absolument. Absolument.
Mais ils sont venus sur ces navires aussi.
Ben voilà, les navires sont là qui disent la provenance exotique de ces deux singes. Effectivement, qui parlent aussi quelque part de la condition humaine. Vous disiez tout à l'heure, ils sont entravés, sont des esclaves. Douanier Rousseau.
C'est Rousseau, c'est vrai.
Oui.
Les animaux sauvages.
Ouais. Ouais. C'est des animaux sauvages.
Son chien,
c'est
un 4, 5.
Son chien. 1, 2, 3, 4, 5. 5,
6. Oui, il y en a pas mal.
3, je crois.
Il y en a un gris.
Il y en a un gris.
Moi,
c'est normal là-bas. 2
marrons.
2, 3. Et les 2 marrons. 4, 5.
Je n'ai pas pris noir.
C'est joli. Ah, ben il y a un serpent.
Ah oui.
Ah oui.
À la base, la feuille blanche.
Vers les feuilles blanches. C'est les singes dans leur habitat naturel.
Voilà, c'est effectivement les singes dans leur habitat naturel. Vous savez comment le mener aux sources, ce genre de choses. Hein.
Oui,
il n'a
jamais été voir.
Il n'a jamais allé. Jamais allé. Sa condition ne lui permettait guère. Vous savez comment il faisait ce genre de composition?
Non, à partir de journaux.
C'est ça, à partir de journaux et autres, puisqu'il était, vous le savez, douanier. C'est quelqu'un qui avait la possibilité de voir des choses passer, si j'ose dire, et entre les journaux, etc., les cartes postales qu'il consultait volontiers, et qui parlait de territoires étrangers, eh bien, voilà, il captait des tas d'histoires. L'illustration, par exemple, pouvait être un des supports de son art. Hein. Et vous savez, il y avait dans ces journaux-là des quantités de représentations de mondes exotiques, d'autres contrées du monde. Il a largement puisé là-dedans. Donc, effectivement, cette espèce d'exotisme. Qu'est-ce qui m'intéresse, d'ailleurs, dans des images telles que celle-ci? Voilà cet exotisme qu'il surprend par le biais des cartes postales ou publications qui tombent sous sa main.
Mais le rêve.
Le rêve, oui.
Le rêve, le voyage.
Oui.
L'exotisme.
L'exotisme. Puis forme, la couleur, la nature, oui. Une espèce de profusion, hein, vous voyez comme la nature est riche. Et vraiment, la nature, elle emplit le tableau tellement qu'on a du mal à, d'un coup, voir les singes, vraiment, les regarder. On a deviné le serpent, mais au bout d'un moment, enfin, voilà, on sent qu'il y a une sorte de profusion animale énorme, de générosité de la nature. C'est une des choses qui fascinait de René Rousseau. Hein. Il a fait comme ça plein de vues de jungle. Parce que. Cette nature immense, cette jungle qui n'en finit pas, pleine de fleurs et d'animaux, ça me fascine, quoi. Ouais. Alors, voilà une peinture. Vous avez tous localisé le singe.
Oui, qu'est-ce qu'il tient ? Il est attaché, le singe.
Il est attaché.
Il est attaché ou il a volé un collier ?
Oui,
c'est... Je me suis toujours posé la question. Je crois que c'est la chaîne qui l'attache. Je crois qu'il est attaché là, qu'il essaie d'ailleurs de voir si c'est possible de détacher, mais non. Et je crois que ce que l'on voit là, c'est la chaîne qui va attacher, je pense, à un pied.
Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est
un supplice. Alors ça, pourquoi un singe là ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il... Il se passe quoi ?
Un conciliabule.
Un conciliabule.
Il y a des guerriers.
Il y a des guerriers.
Il y a des guerriers.
Et puis, ils se mettent à genoux devant eux, là.
C'est une famille royale qui s'agenouille devant un vainqueur.
Donc une famille royale.
Bah parce qu'on voit le roi avec sa famille.
Qui s'agenouille devant un vainqueur.
Oui, on a l'impression. C'est pas Alexandre, tu vas l'exemple. Oui.
Alexandre.
Où tu vois le roi.
Donc ça c'est le roi qui présente ses dames à lui.
Qui présente. Je pense qu'il y a pas de chair.
C'est pas lui.
Il se souvient. Ça va être oriental puisqu'il y a un singe.
Donc c'est une scène orientale. Le singe donnant ce côté oriental, très, très évident d'ailleurs. Hein. Le singe, on ne peut pas le rater. Et tout de suite, à peine on voit là, paf, on voit Orient exotique parce qu'il y a le singe. Ok. Et donc on a un vainqueur qui se fait présenter une famille royale.
Et puis tous les petits personnages qui regardent la scène.
Ouais. Ouais, tout là-haut. Ouais. Plein de gens pour regarder. Donc vous pensez comme scène à quoi ?
C'est pas une victoire parce qu'ils ont des têtes tristes. Hein. Ils sont plutôt défaits, moi je trouve.
Enfin, alors qui est-ce qui serait défait ? C'est eux qui seraient défaits ?
Ils n'ont pas des têtes enjouées.
Ils n'ont pas des têtes enjouées ? Ils sont sévères. Ils sont tous sévères ou bien il y en a qui sont plus sévères que d'autres ?
La famille royale, elle est plutôt attristée.
Eh ben, oui. La famille royale est attristée, et alors eux, ils sont attristés aussi.
Les
concurrents
de les enlèvent. Surtout
là, il
n'y
a que des hommes, donc
ce
sont que des guerriers.
Donc des guerriers qui voient une famille royale qui fait la gueule. Vous m'excusez, mais au moins on se comprend.
Hein et celui qui est voilà, gauche, il y a un homme, une femme. Ah, c'est peut-être Alexandre quand il revoit la famille de Darius.
Ah, ce sera donc Alexandre.
Oui, avec ses compagnons, et parce que Darius il s'est échappé et il a fui et il a laissé tomber toute sa famille, ses femmes, etc.
D'autant que.
Oui. Et finalement, Alexandre leur dit ben non. Il va être très très courtois avec eux.
Magnanime.
Ah
Oui.
Donc ce serait Alexandre et la famille de Darius. Oui. Alors, c'est vrai que votre idée, elle est pas mal, parce qu'il y a un singe, hein.
Oui.
On comprend qu'on est en Orient, hein. Donc c'est une bonne idée, ça. Hein. Bon. Et alors, tout ça a été fait quand, par qui, où
C'est
vénitien,
non
Vénitien. Italien, vénitien.
Oui, c'est
vous voulez de la précision.
Oui, oui. Italien, vénitien, c'est super. Pardon.
Ça fait penser à Titien.
Titien.
Titien, oui. Titien, les couleurs.
Titien, c'est bien.
Il nous a montré son
nom. Moi, je ne suis pas contrariant. Ok. Oui, alors oui, on peut demander ça aussi. Hein. 16e, Titien.
Oui,
16e, Titien, Venise, Italie, Alexandre.
On ne peut pas faire mieux.
T'es là.
On a c'est bon.
Respect.
Hein. On a dit ça.
Eh bien, on verra tout à l'heure.
L'abondance.
Alors, c'est vrai qu'il y a de l'idée de l'abondance là-dedans. Hein. Vous savez, ça me fait penser à l'œuvre qu'on a vue tout à l'heure avec le chien ou la chienne. Hein. Là, il y a une idée aussi d'abondance. Hein. C'est moins j'ai dormi tout à l'heure.
C'est pas de la viande.
Et l'un peut l'autre qui n'a pas accès à la nourriture peut-être, non?
Aussi,
oui.
Si il a des
mâches sur
les oranges, je ne sais pas
quoi. Ils ne sont pas des câlins, hein. J'ai l'impression que ça va.
Pardon.
C'est agressif.
Ah oui, c'est vrai que oui.
Ouais, mais t'as vu, j'en ai.
Alors qu'est-ce qu'ils font ces trois singes?
Ils se servent.
Ils se servent. Alors là, je crois qu'on peut dire qu'ils volent la voiture. Hein. C'est pas notre singe de tout à l'heure qui était photographié, entre guillemets, dans son milieu naturel en train de cueillir des fruits. Il y a des points de fer. Là, ils sont en train de piquer de la nourriture dans un panier. Voilà, tout ça est clairement. Il y a des coupes chinoises, n'est-ce pas? Voilà.
Celui du dessus, je trouve qu'on dirait qu'il a une perruque.
Oui, on dirait qu'il y en a plus de
deux. Ils sont, pas très réalistes, en fait.
Pas très.
Ils sont pas très réalistes pour des
singes. Ils sont pas forcément très réalistes, effectivement. On sent qu'il n'y a pas la même volonté zoologique de la peinture qu'on avait tout à l'heure, du portrait de singe isolé. Il y a là peut-être des sortes de licences artistiques, effectivement, cette sorte de perruque simiesque là-haut ne paraît pas très juste.
Une collerette.
Oui. Alors, l'idée, là, c'est quoi, finalement? En montrant ces singes qui sont... Pardon?
Ça représente les hommes.
Oui, quelque part, oui, et en montrant quoi?
C'est une allégorie de la gloutonnerie.
Gloutonnerie, est-ce que ça va pas même au-delà? Pardon?
Luxure,
je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des côtés... prime sautier ou lubrique là-dedans?
Non,
je ne suis pas sûr.
C'est plutôt les envahisseurs qui se battent pour le festin. Quand il y avait une guerre, il y avait toujours des gens qui partageaient les pillages, qui volaient.
Oui, autrement dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces âges? Ils font comme des humains. Ils flanquent le bazar. Hein, les humains savent très très bien faire. Les humains n'ont besoin de personne pour faire ça. Et donc les singes, là, en quelque sorte, imitent les humains.
Et de façon agressive.
Ouais. Donc on a finalement ici des singes qui mettent tout en désordre. Ils sont là, ils illustrent une sorte de désordre du monde. Ils flanquent le bazar dans ce lieu bien organisé, avec des belles coupes, un beau panier, on a organisé des fruits, etc., qui, de manière abondante, se déversent dans un beau paysage, et les singes sont en train de tout foutre par terre. Je dis cette expression un peu vulgaire, volontairement. Hein. Ils font tout par terre. C'est le désordre du monde. Les singes, ils flanquent le bazar, pour ne pas dire plus. Comme les humains. Ok, très bien.
Qui est comment? On ne sait pas.
sortir sinon le pain de la bouche, et moi les questions de la bouche. Qui, quand, quoi ?
18e.
Et où, 18e. Qui, quand ?
18e.
18e Nord ?
Non. Non, pas France.
Angleterre.
Ah, un peu d'Angleterre. C'est pas mal. Alors, le siècle ?
18e.
18e. Ok. 18e, le lieu ?
Bah,
pardon, l'Angleterre. Allez, Angleterre, 18e. Vous notez, hein ? Il va falloir assumer.
Ça, c'est anglais. C'est une caricature.
Oui, c'est une caricature, ça.
Oui, c'est comme ça.
C'est un civilisé un petit peu. Mais non, il y a des gens qui
sont. C'est la demoiselle
singe. C'est normal. C'est un homme qui ressemble à un singe.
Ça, manifestement, il y a un homme enfin, qui ressemble à un singe, ou un singe qui ressemble à un
homme. Des vrais singes.
Oui.
Les gens ont des mains dans la main.
Il touche sa manche.
Voilà, il tâte le velours. Pendant que l'autre la regarde, les colifichets qui pendouillent de la coiffure.
Et lui, pareil.
Lutte des classes.
Ah, c'est quelque chose qui manque quelque part, un besoin de lutte des classes, si on veut, oui. Ah oui. Si vous aviez un titre à trouver, vous diriez quoi ?
Le noble, il est...
Le parvenu. Ouais. Parce qu'il
le parvenu.
Est nouveau riche. Oui,
qu'est-ce qu'il appartient
il va se montrer devant ses congénères en disant, voyez, que
je vais arriver.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la boîte qui est par terre
J'avoue que j'ai du mal à voir. Il a effectivement une petite boîte, là, ouverte.
C'est comme du maquillage. Le singe derrière
qui est renversé.
Il est en train de piquer, non ?
Ah bah oui, le singe est en train de regarder ce que c'est. Ouais.
Mais il
est la
face
rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une boîte à mouches ? Parce que vous voyez que ce singe, il a une petite mouche.
Oui, ça appartient à...
C'est quand même chic. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui appartient au singe là, qui est laissé tomber, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il lui regarde en l'air, je ne sais pas. Peut-être.
C'est une boîte à briser, non ?
Une boîte à...
Oui, du
ah, peut-être. Peut-être aussi. Voilà. Mais c'est parce que devant, on voit des taches qui proviennent du tabac. Il a décidément un comportement tout humain, ce singe-là.
Ah oui, quelle prétention.
On continue, un titre. Angleterre, non. Donc, titre, vous disiez le parvenu. Hein. Angleterre, quand
18e.
Angleterre, 18e. Adjuste. Ouais.
Les chats.
Une leçon de musique.
Il y a des singes.
C'est la musique. Les chevaliers de la partition. Non, les chats chantent.
Alors, ça fait discuter. Est-ce que c'est une leçon de musique ?
Oui. Non, de chant, c'est
un peu chant. Ah, peut-être, de répétition, d'accord. Ah, oui. Alors, qui est-ce qui chante ? C'est les chats qui chantent.
Le chef de cœur, c'est le
chef de cœur.
Le chef de cœur, c'est lui. Bon, bah oui, c'est le chef, lui.
Oui,
bah oui.
Et les musiciens, c'est les singes.
Les singes, voilà. Et les chats.
Non, les chats chantent.
Ah, les chats, ils chantent.
Les
choristes, c'est les accompagnateurs. Les musiciens sont dans la fosse pendant que les chats sont sur la scène. Il y a même le souffleur à droite. Et bien sûr, le chef d'orchestre.
Le
hic. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Pardon ?
On se moquait d'un autre. de leur, des gens, enfin, des gens qui font de la musique.
Ouais.
Ouais.
C'est ironique.
Pas chanter très bien.
C'est ironique. Même les pieds de la table sont des
chiens. Oui, oui, c'est pas des dauphins, non.
Il y a deux lunes qui
arrivent. Ça ressemble à une espèce de tête de dauphin.
On le voit souvent.
Il y a une cornemuse. Il y a des luttes.
Bon, alors qu'est-ce que ça vous inspire d'autre, ça?
C'est
déjà pas mal. Bon,
c'est un moquerie. Ouais. Hein.
Moquerie de quoi aussi?
Bah, des humains. Des humains.
Oui, bien sûr, mais quel genre d'humain?
Les chants de faux.
Oh, mais les chats chantent très bien. Je peux témoigner. Hein.
Ah oui.
C'est ce qu'il faut. Et ce rapport chat-singe
chat-singe.
Le hibou est surprenant quand même.
Ah ben,
il observe
son
hibou. Le hibou est un peu surprenant. Ah, ouais, ouais, ouais,
ouais.
Ça regarde un peu ce que les autres font.
Il n'y a que les singes qui sont habillés.
Pardon,
oui,
les singes sont habillés, pas les chats.
Et les singes sont par terre et les chats sont en hauteur.
Oui. Et le rapport chat-singe vous parle pas plus que ça.
Il s'ignore, on dirait qu'il s'ignore.
Il s'ignore. Et alors, ça a été fait où, par qui, quand?
Angleterre,
encore?
Une
cornemuse. Ah oui, c'était même en Écosse.
Non, dans le Nord.
Dans le Nord. Bon, ça, c'est... voilà. Et dans quel Nord?
Oh, tranquille. Quelle exigence.
Je pose une question, c'est le peintre des chats, ou pas?
Pas spécialement. Bon, ça veut dire. Et alors la date, puisque nous sommes dans le Nord.
Nous sommes dans le 17e.
17-18e, voilà, on va dire ça. Bien. Alors si je vous demande l'artiste. Ok. Allez, on enchaîne.
Des panneaux.
Alors, c'est effectivement ce qu'on peut appeler des chinoiseries. Qu'est-ce qui vous dit ça?
Les dessins.
C'était très à la sujet.
Quand?
18e.
Effectivement, en 18e, on aime beaucoup ce genre de décor. On appelle volontiers chinoiserie. Alors, on appelle ça chinoiserie quand il y a... pas que rien, des Chinois. Il n'y a pas forcément toujours des Chinois. Ce sont des décors qu'on pourrait appeler décors à la Bérin. Bérin est un artiste français du XVIIe siècle et XVIIIe, enfin, à cheval, qui a fait beaucoup de décors comme ça. Hein. On trouve ça notamment sur les faïences. Rappelez-vous notre société sur les faïences il y a quelques années. Hein. Avec des décors très, très symétriques. Voilà. Et qui sont souvent peuplés et volontiers de... plus ou moins chinois, comme vous le voyez là,
ouais.
Ou là.
Ah, oui.
Donc on parle de ça, évidemment, des Chinois. C'est quand il y a des Chinois. Enfin là, ce n'est pas les Chinois qui nous intéressent. Les Chinois, ils nous intéressent toujours. D'ailleurs, on n'a pas le choix, mais il y a autre chose. Là.
Il
y a des singes.
Bah, oui, il y a des singes.
De chaque côté.
De chaque côté. De chaque
côté.
Des tas de singes. Voilà, l'exotisme. Et là, l'idée, elle est quoi, finalement? Exotisme, effectivement.
C'est des singes habillés en chinois.
Alors, à droite, il y a des singes habillés en chinois. Là, c'est moins le cas.
Oui,
au 18e. Une forme de
mépris.
De mépris.
Non.
Le mépris n'a pas l'air de marcher. Voilà, donc il y a une sorte de mise en parallèle singe humain. De manière à parce que caricatural. D'ailleurs, on dit quelquefois que les humains singent quelque chose. Le mot est choisi. Pardon ? C'est pas vraiment des portes, c'est des panneaux, hein, voilà, d'une boiserie qui en comprend bien d'autres.
Ils font de la musique, non ? Je dirais qu'ils ont des instruments.
Oui, ceux-là, ils font plutôt de la musique, là pas, mais voilà.
Puis c'était à la mode de représenter des animaux, surtout des singes ou d'autres, parce que c'est, ils avaient tous, enfin les grands avaient des ménageries.
Oui.
Et donc, c'était aussi de montrer leur statut, les chaises.
Aussi. Bon, puis là, là, il y a aussi une dimension purement décorative aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Là, hein, on est quand même, mais quand il faut bien un peu, il y a des singes, les singes sont là d'une manière un peu superficielle, hein, pour participer à une espèce de décor, un peu fait de profusion, finalement.
C'est réaliste, ça.
Oui,
c'est très réaliste.
Très réaliste.
C'est pas une photo.
Non, non, c'est pas une photo, mais ça pourrait l'être, effectivement. Hein. Tellement c'est réaliste.
Ah oui. Il
faut devant
un miroir.
Qu'est-ce qu'il regarde?
Un miroir? Non.
Ah, il regarde un miroir, donc il se regarde eux-mêmes.
Je suis bien.
Oui, oui, pourquoi pas. On est là pour ça, d'ailleurs. Donc, ce serait des singes qui se regarderaient dans un miroir.
Se gauche par rapport au cadre doré.
Voilà, là, on voit un cadre doré. Ils sont tous en train de regarder, effectivement.
Sauf celui du milieu.
Il y en a trois. Sauf celui du milieu qui nous regarde.
Le petit. Et après, il y a le petit aussi qui regarde.
Oui, oui.
Il y en a deux,
le
capucin. Il y a quand même cette caisse avec une étiquette.
Oui, là.
Alors là, on a l'impression que ce sont des singes qu'on a importés en quantité.
Ah oui, ce serait la caisse des singes.
Peut-être.
Oui, c'est de l'allemand. Ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Attention.
Prudence.
Oui, il ne faut pas ouvrir dans n'importe quel sens. Donc, des singes qui regardent un miroir... qui ont l'air de beaucoup discuter. C'est un peu comme ici, hein, ça compte. Le sens. Voilà. On regarde un miroir, on se regarde et on discute.
Ah, je sais pas, ça mais non, mais ils découvrent leur image. Alors, il y en a qui sont contents, d'autres qui sont surpris.
Voilà, c'est ça. Donc, ils discutent de ce qu'ils voient. Et qu'ils voient, contents, surpris, étonnés, agacés, coléreux ou amusés. Ou carrément un peu... Pardon ?
Intrigué.
Puis ceux qui nous regardent, il est presque blasé aussi. Oui, en fait, il est entre le côté blasé et dégoûté.
C'est un vieux singe.
Oui, un singe âgé. Et alors, là aussi, toujours la même question. C'est fait quand, par qui ?
C'est écrit en allemand, donc...
Je ne peux pas ne pas vous poser la question.
Allemagne ?
Pardon ?
Allemagne ?
Allemagne ? Puisqu'effectivement, la culture, vous le disiez,
il y a
un peu
sur la caisse.
C'est bien, attention, donc, on parlait du fait que c'était peut-être une caisse dans laquelle étaient les singes.
Oui, ouais. Ils ne tenaient pas tous dedans.
Hein. Il y avait plusieurs caisses. Bon. Et on est quand ? Vous n'avez pas dit la date.
Mais,
17-18.
Oui, voilà. Plus tard.
Au hasard.
Plus tard.
Plus tard.
Mais c'est peut-être en présentation...
19. Fin 19.
C'est peut-être en présentation de l'esclavage.
Là, vous mouillez, franchement.
Non, c'est peut-être l'esclavage. Là.
C'est l'esclavage ?
Ces singes représentent les humains. Esclave, regarde avec son petit, elle se serre, l'autre et tout.
Oh, mais ils font ça dans la nature.
Hein. Oh, oui, mais pas serré comme ça sur une caisse.
Ah, bah, l'idée est d'accord, c'est sûr.
Oui, mais ils sont en train de se presser pour se regarder dans la glace aussi. Hein. Ah, il faut que chacun le soit. Hein. Bah, 19e. Bon, 19e. Voilà, je sens qu'il y a un engagement. 19e.
Il a un bonnet rouge.
Ah, il a fourrure blanche. Donc, il y a le Père Noël.
C'est un peu la même chose.
C'est une caricature.
Oui, c'est une caricature.
Donc la même chose que ce que l'on a pu voir, c'est une sorte de caricature. Caricature de quoi, de qui, de quand?
La société, c'est
une les singes jouent le rôle des humains.
Oui, c'est ça.
Donc c'est une caricature de la société. Alors, c'est pareil, vous datriez ça de quand? C'est fait où?
Non.
Ah oui, mais je suis obligé de vous le demander.
16e.
16e.
Oui, parce qu'avec les jaunes qui ont su, les...
Une idée d'un peintre, peut-être? On a trouvé Bruegel tout à l'heure, il faut dire que c'est inscrit en gros.
Pascal, toi, tu vois bien.
Cherchez plus dans vos têtes. Quelquefois, ça peut jouer des tours.
Mais c'est des gens importants sur la grande table.
C'est important.
Bah, des gens importants, enfin, qui représentent.
Ah, bah oui, visiblement. Hein, oui.
Ouais.
Il y a 6 jours.
Bien, bon, on est au 17, 18, peut-être 16, même j'en
fais. 16, non.
Non, pas 16.
Plus tard.
17, 18 De toute façon, tout est 17. Sans 19.
Il y avait qu'une bourse, ça fait ancien, ça.
Oui, ça, c'est ancien.
La cheminée, tout ça. Puis la cheminée, oui, tout, ça fait pas...
Oh, la cheminée, c'est ancien. Hein.
Ouais. Mais ça fait pas 17... Puis le nord. Le nord.
Je viens du nord.
Pays-Bas.
Le grand nord. Pays-Bas, oh là là, entre 19e avant et nord maintenant, Pays-Bas, on se mouille. Hein. Voilà une sculpture. Tiens, ça nous change. Un singe dans les pattes d'un homme.
C'est pour la stabilité de la statue.
Ah, c'est vrai que ça compte.
C'est inachevé.
Il y a juste que ça qui est inachevé, oui.
C'est fait exprès. Ça peut être fait exprès.
À votre avis?
C'est fait exprès parce que les jambes sont bien faites.
Le singe, c'est plus grossier.
Pardon?
Oui,
est-ce qu'il est rigide?
C'est ça.
Alors c'est fait pour montrer la poigne, non?
Non, non,
donc la question est de savoir si ce côté inachevé, volontaire ou pas. Donc un singe inachevé, pour des raisons de pratique artistique ou pour des raisons. L'opposition, le poli des gens du personnage.
L'opposition de l'homme parfait.
Voilà. L'homme parfait, le singe, imparfait forcément. Tout est parfait dans l'homme.
On est bien convaincu.
Bon. Ok, donc là, une sorte d'opposition. Finalement, un peu contrairement à ce qu'on a vu dans la pièce précédente, hein, où les singes jouaient les rôles d'hommes, là, on oppose le singe, d'être un peu brut, finalement, hein, et l'homme, l'humain, hein, qui est parfait, qui est fini, quoi, le singe qui est une espèce de grosse patate un peu sauvage, qui n'a pas l'humanité, qui donc n'est pas fini. Hein, donc une opposition très visible, effectivement. Hein, intéressant. Je vous appelle, vous posez la question. Je vais me faire rembarrer. Où et quand?
17-18.
Ah, oui.
Michel-Ange, parce qu'il a fait des choses comme ça.
Oui, donc ce serait Michel-Ange. Donc ça, évidemment, c'est Michel-Ange chez Italie. Hein. Oui. Alors c'est peut-être pas 17-18.
Non, c'est 16.
C'est plutôt 16-15-16. Bon, donc on change un peu notre fusil d'épaule côté date, mais on aurait une idée côté lieu et artiste. Bon.
Ah, mais c'est pas évident, ça.
Ça, c'est un chef-d'œuvre de chez moi. Voilà.
Un petit chien avec un neuneu, animal de compagnie.
Et cet animal de compagnie, qu'est-ce qu'il suggère aussi là?
L'exotisme.
Oui, bien sûr.
La bourgeoisie.
C'est la même chose. Finalement, c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu dans d'autres peintures plus anciennes, 17-18 hein, tout à l'heure, hein, ou bien dans des peintures présentant des chiens. C'est-à-dire, effectivement, c'est un animal de prix, et avoir un singe, ça vous pose.
Il faut bien le montrer en hiver et en nourrir.
En plus. Bien. Alors, on va peut-être ramasser les copies et puis on va prendre.
Mais vous,
vous êtes bien assis. Bon. Pas de traumatisme. Alors, la première œuvre que je vais vous montrer, elles ne sont pas forcément là dans le même ordre. Hein. J'ai essayé à l'un de placer thématiquement. Ça, c'est l'œuvre de Stubbs, vous vous rappelez?
Oui.
Vous rappelez qu'il avait, la dernière fois, il nous avait montré un chien un peu comme frisé comme un mouton tout blanc, vous vous rappelez?
Oui.
Et Stubbs, on avait vu que c'était en Angleterre le peintre des chevaux, mais c'est également le peintre d'autres animaux, et dans cette vision très histoire naturelle. Hein. Là, pas très étonnant qu'il montre ce singe. Hein. Bon, je ne sais pas quel le singe c'est, j'aurais dû chercher d'ailleurs. Voilà, mais. Ce qui nous intéresse là, c'est qu'on a une attitude zoologique, scientifique. Stubbs, ce qui intéresse, c'est le singe en tant qu'un animal que l'on peut caractériser. Bien. Là, c'est une œuvre, vous aviez raison, italienne, de Gentile da Fabriano, du 15e. Vous aviez raison, hein, là, vous avez fait fort. Hein, qui représente effectivement l'adoration des mages, c'est le détail d'un retable qui est beaucoup plus important que vous voyez là. Voilà, très beau retable, musée des offices. Voilà. Effectivement, là, on a bien caractérisé. Hein. C'est une œuvre qui montre l'adoration des mages, exotisme d'une part, cette idée de la richesse. Hein. Les mages ne sont pas des pauvres. Hein. Ils ont fait un immense trajet, ils sont riches, ils ont toute une caravane. L'Orient, la richesse, et puis effectivement cette manière de suggérer à travers les singes que la religion est prête à, la religion chrétienne, la vraie, la seule, entre guillemets, est prête à dominer le monde. Hein, elle doit englober toute la création, hein, y compris ces animaux que Noé avait sauvés dans son arche. Hein. Vraiment, la religion chrétienne doit prendre en compte le monde entier dans toute sa sauvagerie, dans tout son naturel, comme les singes le suggèrent. Et là, vous aviez bien vu que c'était vénitien, sauf que c'est véronaise. Bon, Titien n'est pas loin. Hein. Mais Véronèse a quand même cette dimension plus élégante. Vous savez, Véronèse, c'est vraiment le prédécesseur de Tiepolo. Hein. Et l'un des œuvres typiques de ça, qui montre effectivement, vous l'aviez deviné, la famille de Darius devant Alexandre. Hein. Alors vous connaissez l'épisode. Hein. Darius, non seulement a pris la fuite, mais il s'est fait tuer. La famille d'Alexandre, en gros, son épouse et leur fille sont là dans le camp. Effectivement, Alexandre, magnanime, va plutôt les trucider ou les emmener dans je ne sais quel geôle, au contraire, les protéger. D'ailleurs, au départ, l'histoire nous dit que la famille d'Arius arrivant devant Alexandre avec un certain nombre de membres de son entourage vont croire qu'Alexandre est un membre de l'entourage d'Alexandre et pas Alexandre lui-même. Il se trompe au départ. Hein. Et puis finalement, Alexandre sort et c'est la scène que vous voyez ici, il se montre comme étant le protecteur de la ville de Darius. Et le singe est là, effectivement, pour montrer le côté oriental. On est en étant dans une cour hein, avec le nain qui est ici, hein, avec des petits chiens d'ailleurs, chiens encore, chiens toujours. Hein. Voilà. Enfin, tout concourt ici à montrer l'exotisme de cette famille, sa richesse aussi, avec aussi ce singe. Qui est entravé, l'idée hein, que qu'est-ce qui va se passer pour cette famille, va-t-elle être elle-même comme le singe, hein, mis en jaune ou pas, et Alexandre va ne pas le faire, il ne considère pas la famille d'Arius comme des singes finalement, il y a un peu ce jeu hein, entre le prisonnier et celles qui ne le font pas l'être. Alors, on avait vu ce fameux tableau de Bruegel, un tableau extraordinaire. Hein. Bruegel, on le connaît pour ses scènes, vous savez, amusantes, de foire et autres. Enfin, pas toujours. Il y a des scènes beaucoup plus dures. Mais là, on a un tableau très étonnant qui nous montre deux singes vraiment portraiturés pour eux-mêmes. Hein. C'est un tableau qui nous présente ça. Hein. Donc, vraiment, c'est un portrait de singe. C'est un peu l'équivalent du basson, on l'avait dit tout à l'heure, pour les chiens. Devant le port d'Anvers, hein, c'est Anvers qui est à l'arrière, effectivement, qui nous ouvre sur le monde. C'est sans doute par ces bateaux-là que ces singes sont arrivés. On est là, au milieu du XVIe siècle, dans une des premières représentations de singes vus pour eux-mêmes. Hein. On est deux siècles avant Stubbs, quand même. Hein. C'est donc très, très remarquable. Intéressant aussi d'œuvres de Snyder. Hein. On avait vu des œuvres de Snyder la fois dernière. Et effectivement, vous avez bien vu comment on était là, dans ce tableau qui date du XVIIe siècle, hein, dans cette espèce de mise à sac du monde. Hein. Les singes, ils avaient le désordre. Effectivement, parce que le singe, c'est une sorte de parallèle de l'homme. Il y a là cette espèce de volonté de montrer le côté négatif du singe, mais qui vaut bien celui de l'homme. Alors, beaucoup d'artistes de ce temps-là ont fait ça. Hein. Voilà une œuvre de Melchior de Nondercoteur, hein, où vous voyez là une sorte l'ordre qui serait évoqué par le chien, hein, qui défend son maître et tout ce qu'il fait, face au singe qui fout le bazar. Hein, voilà. Et donc, cette espèce de dichotomie, la chaîne d'Orcoteur, on n'a pas vu ce tableau, hein, mais j'en ai rajouté quelques-uns pour compléter un peu le choix. Ça, alors là, on s'est un peu planté. Hein. Ça, c'est une œuvre d'Andrea Monte, hein, qui était faite par le cabinet d'Isabelle d'Est. Hein. C'est donc une œuvre du XVe siècle, pas du tout du XVIIe. Qui représente, on l'avait vu, hein, Minerve qui chasse les vices du jardin des vertus. Donc une œuvre allégorique, une œuvre complexe dont on n'a pas tout compris. Mais ça ne nous étonne pas. On a travaillé sur la Renaissance il y a quelques semaines. Hein, et on a vu que dans les tableaux de la Renaissance, les côtés mystérieux, pas très clairs, qui fait qu'encore aujourd'hui on s'adore sur des œuvres, est tout à fait typique. La Renaissance ne va pas nous dire noir sur blanc comment ça marche. On est là pour qu'on continue aujourd'hui encore à s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire. Et on a écrit des pages là-dessus et rien n'est absolument fixé. Certes, c'est Minerve, mais je dirais qu'on n'en a pas fini d'évoquer, de travailler sur tout ce qui est marqué et indiqué autour. Chardin. Ce tableau-là est en quelque sorte, hein, le pendant d'un autre, le singe peintre. Et ça, effectivement, hein, alors vous avez bien dit que c'était sans doute français du 18e, vous n'étiez pas si mal tombé. Et effectivement, c'est une manière de montrer que le singe est pensé de l'homme et que l'homme est finalement qu'un singe. Hein. De toute façon, encore une fois, on dit souvent qu'on singe telle ou telle personne. Hein. Vous savez, un tel singe, un tel. Hein. Voilà. Le fait qu'on utilise ce mot-là montre bien, finalement, on explicite bien un tableau tel que celui-ci. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, il y a un autre peintre français qui s'appelle Decamps, Alexandre Royer Decamps, qui a beaucoup fait des singes en train de pratiquer des activités humaines. Voilà des singes musiciens, voilà un singe peintre du même Decamps. Décidément, ce parallèle homme-singe, il est très très à l'œuvre. On a même fait faire, dès la fin du XIXe, des tableaux à des singes. Qu'elle voit à des ânes aussi, mais à des singes. Donc voilà, on essaie de créer ce parallèle au sens réel et complet du terme. Hein. Là, vous avez bien vu ce dont il s'agissait. C'est une œuvre de Landsi, vous savez, ce peintre anglais. Vous avez bien vu que c'était anglais, hein,
ça, vous l'avez
vu,
hein,
du 19e. Et c'est un. Vous savez, Landsi, celui qui a fait beaucoup d'odeurs avec les chiens. Hein. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais montré le fameux Diogène, hein, de Landsi. Hein. Vous avez montré plusieurs tables des chiens. Vous avez vu le chien, mais qui est humanisé tout à l'heure, couché sur le quai. Hein, voilà. Et là, c'est le singe qui a vu le monde. On croirait qu'il y a une sorte de fable de La Fontaine. Hein. Voilà. Et on sent bien le singe qui est allé dans le monde et qui a pris les habitudes des humains. Et qui débarque dans sa communauté, on est en train de s'épouiller d'un côté, de regarder des trucs de l'autre. Enfin, voilà, on voit le contraste entre les uns et les autres. Hein. Et alors, il y a ce tableau-là, très étonnant, allemand, de Cornelis van Max, du moins germanisant, donc allemand, transport du terme, mais un tableau tout à fait étonnant, faisant des singes critiques d'art. En fait, si on regarde pas dans un miroir et regarde une peinture qui vient d'arriver dans la caisse. Hein. Ça, c'est la caisse de la peinture. Pour ça, c'est marqué fragile. C'est pas la caisse des singes. C'est la caisse de la peinture, mais peinture, faut faire attention. Hein. Et d'ailleurs, quand les peintures arrivent au salon d'une ville, etc., c'est dans caisse. Hein. Et là, on a déballé la caisse et les singes, qui sont de grands amateurs, regarde. C'est vraiment une manière de se moquer aussi des humains. Hein. C'est toujours la même chose. Le singe, il est tellement humanoïde. Et évidemment, on peut penser que les critiques d'art ont été tout à fait intéressés par ce regard. De toute façon, cette humanisation du singe, maître Fécamp, Teniers. Hein, Teniers, vous savez, le pain du 17e, originaire d'Anvers, qui a réalisé beaucoup de scènes paysannes et beaucoup de scènes où ce sont les singes qui jouent le rôle des hommes. Alors là, c'est très visible. Hein. Il a fait des tas de scènes de taverne, et là, c'est joué par des singes. Il y en a des tas faites par Teniers, joué par des hommes eux-mêmes. D'ailleurs, on a d'autres exemples. Hein. Là, voilà un autre membre de la même famille. Hein. Abraham Teniers n'est pas David Teniers. Hein. Il est un peu plus tardif, mais c'est la même famille. Et là, vous voyez qu'il représente une tabagie de singes. Teniers, les Teniers, toute une dynastie, hein, ont représenté beaucoup de scènes de tabagie dans des auberges, etc. Ben là, à nouveau, c'est les singes qui jouent le rôle des hommes. Autre exemple hein, qu'on a également vu. On l'a vu celui-là ou pas,
non, non,
voilà. Sans doute d'Abraham Teniers, où de la même manière, on voit des singes jouer le rôle des hommes. C'est la grande affaire de la famille Teniers que de représenter ça. Et puis alors, il y a ces tableaux nombreux. On voit les singes confrontés aux chats. Hein, vous vous rappelez de celui-là hein, toujours au même combat, Teniers, hein, Teniers et Unco. Voilà. Les singes évidemment jouent la musique, les chats chantent sous la houlette du hibou. Et c'est intéressant parce que l'espèce de parallèle singe-chat est assez intéressant, on ne comprend pas forcément toujours ce qu'il veut dire. Finalement, les singes et les chats sont assez malins tous les deux. Hein. Une espèce d'équilibre entre le côté malin du singe et malin du chat apparaît beaucoup, jusque dans des scènes humanisées aussi, comme celle-là. Hein, d'Abraham Teniers, toujours, on voit les singes qui sont barbiers des chats. Il hein. Y a vraiment une manière comme ça d'équilibrer les deux. Finalement, singe et chat, même combat, hein, une manière d'humaniser les uns et les autres, comme des animaux capables, dans les deux cas, hein, d'être des néo-humains, finalement. Et puis, effectivement, il y a, non pas les chinoiseries, mais les singeries. À vrai dire, on a tellement aimé ce genre de boiserie peinte au XVIIIe siècle, surtout en France, hein, qu'on appelle ça des singeries. Alors, effectivement, on peut appeler parfois ça des chinoiseries quand on a des chinois, mais il y a beaucoup d'artistes, et lui s'en était fait une spécialité, qui ont réalisé des singeries, ça a été très à la mode. Hein. Le musée Condé à Chantilly il possède un très beau cabinet peint avec des singeries. Et là, vous voyez une singerie présente d'Amérique. Je vous montre ici les deux singes de chaque côté. C'est bizarre parce qu'il est dit l'Amérique. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas l'air spécialement américains, ces deux singes-là. Hein. Donc, je me demande s'il n'y a pas une erreur dans les sources que j'ai consultées. Parce que quand on voit ce personnage, elle peut être l'Amérique, mais elle peut être tout aussi bien l'Europe. Et je trouve que ces deux personnages de chaque côté, celui de droite, qui a un habit plus ou moins russe, hein, et celui de gauche qui peut avoir un habit d'Europe occidentale, montre qu'on puisse penser à des Européens qu'à des Américains. Mais j'ai pas revérifié, c'est un petit peu bizarre. Par contre, là, cet autre panneau, parce que les cinq continents, enfin il y en a quatre à l'époque, sont représentés, ça c'est bien l'Asie, hein, où on voit un vrai chinois avec deux singes complètement habillés en chinois, hein, qui sont en train de jouer des instruments, c'est vraiment très très marrant. Hein. Ça vient d'être restauré, d'ailleurs, c'est superbe. Les singeries, qui évidemment, de manière plaisante, décorative, imitent l'homme, ça, c'est un grand classique. Et puis, effectivement, il y a le douanier Rousseau, alors qui a fait ce tableau, qui a fait également celui-ci, hein, par exemple. Voilà, le singe, toujours et encore, vu par Rousseau à travers ses cartes postales et autres photos qu'il rencontrait dans les journaux, une espèce de profusion, on se jette dans cette jungle inextricable, bourrée de singes et de serpents, une jungle à la fois prolifique, hein, mais en même temps un peu inquiétante. Hein. Et puis il y a ce rat, hein, et ce singe, effectivement, qui, qui vous marque la dame qui le tient par sa petite laisse, hein, merveilleux tableau qui là aussi, vous l'aviez dit, hein, souligne une sorte de condition sociale, et puis il y a Michel-Ange. Et vous aviez raison, c'est bel et bien Michel-Ange, et c'est même l'esclave. L'un des deux esclaves du Louvre. Vous savez, les deux esclaves du Louvre aujourd'hui avaient été faits par Michel-Ange dans le cadre de son travail sur le tombeau du pape Jules II, qui est une vraie aventure, hein, parce que finalement, c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Au départ, ce tombeau devait être énorme, finalement, pour des tas de raisons, des changements de pape, finalement, le tombeau de Jules II s'est avéré accouché de presque rien. Et les esclaves qui étaient faits pour lui n'y ont jamais été associés finalement, ils se trouvent donc aujourd'hui au Louvre. Et René, on se demande toujours pourquoi à l'arrière de cet esclave dit mourant, il y a un singe. Alors c'est peut-être ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire une manière d'opposer le singe un peu sauvage et l'homme qui lui n'est pas. Mais il y a aussi d'autres propositions, à vrai dire ça reste toujours un peu une énigme. Énigme aussi pour savoir si le singe n'est pas fini, parce que Michel-Ange n'a pas voulu finir, volontairement, ce qui est d'ailleurs inspiré beaucoup des artistes comme Rodin, vous savez, ou bien si, je veux dire, il n'a pas terminé, parce que le tombeau de Jules II a été un tel bazar que, voilà, il n'a peut-être pas fini sa sculpture. Mais ce n'est pas sûr, parce que des œuvres qui ont l'air aussi terminées que le David ne le sont pas complètement non plus. Donc le côté non finito est peut-être absolument volontaire, et souligne peut-être, effectivement, cette espèce de volonté qu'il y a de faire contraster un être finalement un peu impur, impropre, pas vraiment terminé, un peu beau de l'écorage, le singe, et l'homme qui, lui, est vraiment superbement, si j'ose dire, achevé. Hein. Donc, voilà, vous voyez que finalement, on a avec le singe des chemins assez équivalents au chien, même s'il y a des spécificités, hein, mais le côté anthropomorphique du singe jusqu'à certains mystères, on voit que finalement il y a des chemins plus ou moins parallèles, et puis des lieux ou des types dans lesquels les singes ont été représentés. Voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Bravo, hein, et on continue évidemment la semaine prochaine.
Pas été sérieux.
Non, ça va être toujours.